Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
Salut Cinociné, votre rendez-vous avec le cinéma présentement décliné sous sa forme Extra Ball, notre petite sortie de route raccourcie mais savoureuse tout de même qui nous permet de prendre le temps d'aborder une sortie au cinéma ou en Blu-ray comme on va le faire là tout de suite en causant de Cops and Robbers d'Alex Chung qui sort chez Spectrum Films dans une très belle édition dont on va parler avec mes camarades Arnaud Bordas. Salut Arnaud.
Salut Thomas.
Et Stéphane Moïsaki. Salut Stéphane.
Salut Thomas.
Cinociné Extra Ball spécial Cops and Robbers et c'est parti.
Un amalgame entre la coquetterie et la classe.
Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
Cops and Robbers, 1979 à l'origine, c'est signé par le réalisateur hongkongais, je l'ai dit, Alex Chung. Ça nous raconte la traque de cambrioleurs par un groupe de policiers déterminés. Et c'est une belle découverte pour nous tous, c'est ce qu'on peut dire, Arnaud.
Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est le film d'un réalisateur qui s'appelle Alex Chung. Et qui a fait partie un petit peu de ce qu'on a appelé la nouvelle vague hongkongaise, oui. Qui en gros s'est échelonnée entre la fin des années 70 et le début des années 80. Et alors, qu'est-ce que c'était que cette nouvelle vague? C'était des gens comme Alex Chung, comme la réalisatrice Anne Hui, comme Tsui Hark aussi qui vient de là. C'était des gens qui avaient beaucoup bossé à la télé précédemment. Alors, il faut resituer un peu le contexte du cinéma hongkongais de cette époque-là. Dans les années 70, jusqu'aux années 70, on va dire, le cinéma hongkongais, c'était un cinéma qui donnait essentiellement des drames en costume, des opéras, des choses comme ça, des projets assez prestigieux, quoi. Et on n'avait pas beaucoup, par exemple, de polar ou de choses comme ça. Et en fait, la télé s'était accaparée ça. Et donc, toute cette jeune génération de réalisateurs ont fait des polars à la télé, souvent avec des choses qu'on ne voyait pas au cinéma, c'est-à-dire avec un univers social auquel le genre du polar prête le flanc, en général, oui. Mais un univers social assez marqué, voire même des fois où ça dérivait vers la chronique sociale, un petit peu. Et ils ont fait leurs armes là-dedans, quoi, tous ces jeunes réalisateurs. Et en fait, voilà, on arrive à la fin des années 70, où ils commencent à investir le cinéma. Alors, c'est une période un peu aussi spéciale, parce que c'est la période où on commence à parler de la rétrocession, qui va arriver en 97. Et donc, les films se font... je crois que les premières tractations, il me semble, c'est vers 1980, si je ne dis pas de bêtises. Donc, dans cette période-là, il y a une période un peu d'incertitude sociale à Hong Kong, et les films se font dans... Il y a beaucoup de films contestataires.
Oui. On sent très bien l'angoisse de voir la Mainland China se rapprocher.
Je crois que c'est l'enfer des armes qui a été... de Tsui Hark qui a été totalement censuré à l'époque. Mmh. Et donc, les réalisateurs, il y avait comme ça un esprit un peu contestataire, ou en tout cas qui visait à décrire la société, oui. Parce qu'ils sentaient arriver bientôt la mainmise de la Chine qui allait reprendre le pouvoir. Et donc, voilà, et ça donnait cette génération de réalisateurs qui ont fait des films donc, comme ce Cops and Robbers d'Alex Chung, qui était un réalisateur assez méconnu en Europe, parce que ces films n'ont hélas pas atteint nos rivages, contrairement à ceux des autres réalisateurs que j'ai cités, où on peut même citer Kirk Wong, qui allait au tout début des années 80 réaliser son premier film. Voilà, tout ça, c'est des réalisateurs qu'on connaît, qui depuis 20-30 ans, qui ont eu leur film distribué en France. Et Alex Chung, non, je crois que Cops and Robbers, mais c'est même pas sûr, parce que je suis même pas sûr, au final, il a fait partie de la programmation. Il y a quelques années, il était passé au Forum des Images. Mais il n'y a jamais eu de DVD, rien, c'est pas passé à la télé. Moi, je me rappelle pas avoir su. Je sais que Dionne, à l'époque, dans les années 90, dans son cinéma de quartier, Jean-Pierre Donnet sur Canal+, il a fait découvrir beaucoup de polars hongkongais. Il me semble pas que ça soit passé à cette époque-là. Donc c'est une vraie découverte de pouvoir voir ce film, qui est un petit joyau, vraiment, oui. De la période. C'est un film, mais bon, après je vais laisser peut-être un petit peu parler Stéphane, qui est un film vraiment qui est brillamment mis en scène, très bien interprété, qui est... Enfin voilà, une vraie curiosité qu'il faut vraiment pas rater, en tout cas si vous aimez le cinéma de Hong Kong de cette période-là. Quand même.
Stéphane ?
Ouais, moi je vais partir un peu sur un truc un peu perso, c'est-à-dire que moi j'en ai bouffé du film de Hong Kong dans les années 90, surtout parce que comme j'habitais dans le quartier chinois, je descendais en fait acheter des vagues, enfin prendre des vagues de laser en fait, et les mater, et comment dire, et même j'avoue les ripper sur des cassettes pour pouvoir les revoir, etc., etc. Donc c'est, oui, c'est moche, mais c'est pas grave. C'est pas les avais payés, j'avais loué quand même. Oui. Et en fait j'en ai bouffé, et celui-là je suis jamais tombé dessus. Et c'est vrai que le voir aujourd'hui, en fait, c'est tomber sur le proto-polar hongkongais en fait de cette période-là, quoi. C'est-à-dire Arnaud a cité Kirk Kong, on peut aussi citer Ringo Lam, qui faisait en fait des films comme The Big Eat, comme Organized Crime and the Triad Bureau, et en fait qui sont pas forcément des films qui sont conçus plus ou moins de la même manière, mais qui en fait sont des films qui sont vraiment une espèce de plongée en fait dans le fonctionnement de la police à Hong Kong, dans la façon, là en l'occurrence dans celui-là, il y a un truc aussi qui est très très étonnant, c'est montrer.
Peut-être tu cites OCTB, mais effectivement, on pense beaucoup à ce film-là.
Oui, oui, mais il y avait Big Hit aussi. Je parle vraiment du Ringo Lam, si je dis pas de conneries, de 88. Et en fait, et non pas le Kirk Kong de 98, qui est le film américain, qui est son premier film américain, mais et qui était sorti chez HK, donc c'est le Big Hit de 88. Mais on s'y retrouve. Hein,
ça ressemble au sketch des inconnus.
Exactement.
Sur la radio jazz.
Ouais, et en fait, en fait, moi, je pense pas que ce soit peut-être le premier film, le premier polar hongkongais de cette trempe-là, mais en tout cas, ça ressemble à ce proto. En tout cas, pour moi, c'est une découverte, je le découvre comme ça. Et ce qui est assez fascinant, en fait, c'est de voir à quel point il y a une vraie, à la fois, en fait, un vrai naturalisme dans la façon d'aborder tous ces éléments-là, c'est-à-dire le fonctionnement des flics, leur rapport avec leur petite amie, par exemple. Leur rapport entre eux, leur rapport avec leurs gosses. En fait, le film, il s'ouvre littéralement sur des gosses qui jouent aux flics et aux gendarmes et aux voleurs, qui est le titre du film, quoi. Et en même temps, montrer comment, finalement, par des bribes de dialogue comme ça et de petites scénettes, les Hongkongais supportent pas les flics et leurs méthodes, etc., etc. Donc, tu as tout un tas de trucs comme ça avec une vraie liberté de ton qui est assez surprenante. Il y a notamment un braquage en fait qui arrive au milieu du film où les types portent des masques, mais c'est des masques de fantômes chinois. Et en fait, ce qui est assez
de théâtre,
et en fait, ce qui est assez génial, c'est qu'ils rentrent dedans et t'as carrément un moment qui est hilarant où ils défoncent une porte et t'as l'employé de banque qui se met à hurler. Et les mecs disent c'est un braquage, enfin son patron lui dit c'est un braquage, j'ai cru que j'avais vu un fantôme. Mais vraiment, c'est joué sérieusement, mais c'est un gag.
Et t'as son collègue qui la regarde, genre, mais qui est en train de dire, mais
voilà.
On est en train de se faire braquer, quoi, en gros, il se dit le gars.
Voilà, et le truc, c'est que cette scène, c'est pas une scène de braquage complètement, enfin je veux dire, elle se termine sur un moment très très violent, qui en plus est clairement appuyé, c'est-à-dire qu'on te montre l'après-coup en fait de cette mise à mort, et en fait tu vois tout le truc, c'est cette rupture de ton qui fonctionne très très bien et qui pour moi montre en tout cas si le cinéma en fait pour moi le bon cinéma qui capte vraiment l'air du temps, on va dire, et pas celui qui essaye de capter l'air du temps pour flatter les gens, il ressemblera à Cops and Robbers, c'est-à-dire vraiment en fait si moi en fait qui n'ai jamais pu aller à Hong Kong dans les années 80 pour voir à quoi ressemblait la ville à cette époque-là, si je montre ce film j'ai l'impression que c'est vraiment ça, voilà, c'est ça, ouais. c'est les bornes d'arcade pouilleuses, les mecs qui traînent un peu malsains, tous ces trucs là, et c'est en même temps à la fois, alors c'est-à-dire il y a ce naturalisme en fait qui est là, mais c'est du naturalisme qui n'est pas justement, qui ne joue pas sur la carte du on va faire du caméra à l'épaule, on va la jouer même Friedkin post French Connection, tout ça, etc., etc. Ils essayent pas du tout de singer ça, c'est un film qui est très très soigné, en scope, très bien cadré, et qui arrive quand même à malgré cet appareillage en fait, cette façon de filmer le film, en fait arrive à complètement capter les moments de vie, comme quoi c'est la preuve qu'on peut vraiment le faire et qu'on pouvait vraiment le faire à une certaine époque, à condition en fait de l'aborder de la manière la plus honnête possible, quoi. Et ça, je pense que c'est un truc qui lui a été aussi reproché au film, c'est d'ailleurs, j'ai l'impression, parce que quand tu regardes un peu les reviews qui se font depuis, les mecs te disent les termes, alors c'est des reviews anglaises, hein, sleazy, un peu c'est un peu crapoteux, c'est un peu machin, mais pas du tout en fait, il y a vraiment un côté vivant en fait, et moi c'est le truc qui m'a le plus marqué, et c'est exactement en fait ce que j'ai retrouvé plus tard dans les films de Ringo Lam, plus tard dans les films de Kirk Kong, en fait tous ces polars entre guillemets réalistes naturalistes, mais aussi en fait très comment dire radicaux dans leur approche quoi.
Et très bouillonnant ouais, parce que c'est vrai que il y a tu parlais de rupture de ton, mais c'est un film qui déploie une gamme de cinéma assez large quoi. Effectivement, tu as des scènes de chroniques comme ça de rue avec les marchés, les gamins qui traînent et trucs comme ça, et puis après ça bascule avec une scène où on est concentré sur le méchant qui est assez effrayant quoi. Oui. Où c'est filmé de manière très expressionniste, je pense notamment au final sur la plage là avec avec le héros. Voilà, c'est un film qui arrive à passer par plusieurs couleurs sans jamais perdre son spectateur. Après, ce que tu disais aussi sur l'humour de la banque, moi, il y a un autre truc aussi qui m'a beaucoup plu. On est d'accord que quand on fait une référence dans un film, une référence cinéphilique, ce qui devient un petit peu désagréable, c'est quand on a l'impression que les cinéastes essaient de se mettre le spectateur dans la poche. Genre, vous êtes là, vous êtes des cinéphiles en train de regarder un film, vous avez vu la référence.
Vous avez vu.
Enfin, Marvel adore faire ça, quoi, tu vois. Voilà, voilà. Et là, en fait.
Il y a un point Marvel dans ce.
Voilà. Ah, oui. Mais là, en fait, t'as une référence qui est super bien, je trouve, dans le film. C'est en fait un flic qui est en train de cuisiner un marlou, quoi, pour lui faire cracher une information. Et il lui dit. Ouais,
marlou, c'est un voyou, je précise ça pour les gens qui ont moins de 50 ans qui nous
écoutent. Quand même, bon, et donc il est en train de cuisiner le marlou. Et
ça n'est pas un poisson.
Et il lui dit tel soir, t'étais où tel soir, pour pouvoir se disculper quoi. Ouais. Et le gars lui dit ah j'étais au cinéma. Et il dit ouais je te crois pas et tout, t'es allé voir quel film? Et l'autre il lui dit donc un film de l'époque. Hein, il lui dit bah je suis allé voir Midnight Express. Et le gars il lui dit ah ouais ça parle de quoi comme film? Alors on se dit il va le piéger comme ça quoi. Ouais. Et en fait le gangster lui répond je me rappelle plus, mais il lui répond un synopsis qui a rien à voir. Ah oui, il lui dit ah bah c'est un train de minuit, le héros il le loupe ou un truc comme ça, tu vois. Et là on se dit normalement le gars pour rester dans la référence cinéphilique, le gars va lui dire mais tu racontes n'importe quoi. Et en fait le flic lui dit c'est pas vrai, j'ai vérifié, le film il était pas projeté ce soir là Donc, en fait, c'est très touchant, cette idée, parce que c'est une manière de caractériser les personnages et de montrer qu'en fait, les gangsters et les flics sont pareils. Ce sont des gens qui ne vont pas au cinéma.
Qui n'ont pas cette vie-là.
Voilà, qui n'ont pas cette vie-là. Et au lieu de te faire rire juste avec la référence pour la référence, le mec, il te fait déboucher sur une véritable caractérisation de personnage. Et qui est dans jusque dans le titre du film. Cops and Robbers, effectivement, ce que tu disais, la scène d'ouverture et la scène de clôture avec ses enfants qui jouent aux gendarmes et aux voleurs. Donc voilà, non, c'est un film vraiment très intelligemment fait. Puis, bah, c'est ce qu'on aime, bordel, le cinéma populaire.
C'est ça qui est bon, c'est ça qui est bon. Cops and Robbers, ça sort donc chez Spectrum Films, il a tout dit.
Il faudrait que les éditeurs se mouillent un peu et nous sortent les autres films de Alex Chung, parce qu'il paraît qu'il y a encore d'autres petites perles derrière, quoi, notamment le film suivant, donc ça serait bien de les sortir aussi.
Mais on les attend, en tout cas celui-là donc est disponible, on l'a dit, chez Spectrum. Notre temps est écoulé, merci à tous les deux, merci à Solène, à Technique, Binge.audio pour toutes les infos utiles, on vous dit à très vite.
Binge.
Un amalgame entre la coquetterie et la classe.
Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real, frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.